enregistre.
Et pour la partie manga, donc nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Bénédicte qui nous rejoint justement pour aborder cette vaste ce vaste pan des parutions. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir, bonsoir et bonjour à tous, chers auditeurs. Alors je vais commencer à parler de quelques parutions remarquables en manga et en premier lieu de séries qui se sont achevées en 2021. En effet, le manga est un média sériel par essence et souvent la conclusion d'une œuvre est un chantier artistique à lui tout seul. Et en 2021, il y a plusieurs séries qui ont réussi à proposer une fin adaptée à leur caractère tout en respectant à minima un public souvent éclectique et bien avant que l'œuvre s'épuise avant de faire l'arc scénaristique de trop, ce qui est assez remarquable. Alors je vais commencer par deux séries très connues. Il y a L'Attaque des Titans de Hajime Isayama qui s'est conclue à son 34e tome et The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu qui s'est achevé à son 20e tome. Alors ces deux séries sont très populaires, très connues. Elles ont une adaptation animée. Et même si elles sont très différentes, elles ont quand même assis leur réputation sur la résolution de différents mystères et sur de nombreuses thématiques de survivalisme. Et pour moi, c'est deux moteurs de narration qui amènent très facilement à l'enlisement ou la répétition à long terme. Et pour moi, ces deux séries ont réussi à proposer des conclusions qui respectent leur intention artistique. Et même s'il pourra y avoir un débat, ce sera toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas à continuer ou à vous relancer dans L'Attaque des Titans ou de Promised Neverland. Vous ne serez pas déçus, vous aurez de quoi réfléchir au moins.
Oui, puis c'est après, vrai. Pardon. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur L'Attaque des Titans parce que c'est vrai qu'on voit ce que tu disais sur les mystères et le survivalisme. C'est quelque chose qui est assez marrant à constater quand on suit, par exemple, les gens qui ne suivent que l'animé. À chaque nouvel épisode où je vois des réactions, en général, c'est toujours « Ah oui, mais vous êtes encore, vous n'avez encore rien vu, vous allez voir les révélations de l'épisode suivant, puis de l'épisode suivant, puis de l'épisode suivant. » Donc c'est un peu toujours la même mécanique, mais sans vraiment s'essouffler.
Oui, c'est vraiment... quoi qu'on en pense de L'Attaque des Titans, tu peux ne pas l'aimer parce que tu n'aimes pas ses thématiques ou ses ressorts scénaristiques, mais tu peux pas lui refuser qu'elle est efficace et... Oui. Et c'est pas non plus très évident de durer sur la longueur avec un tel dynamisme en fait.
Ah bah oui, tout à fait.
Il y a une série justement qui s'est conclue que cette année, qui est peut-être un peu moins connue parce qu'elle a pas eu d'adaptation animée, c'est Hell's Paradise de Yuji Kaku. Alors c'est une série qui s'est finie cette année au 12e tome. Pour la résumer très simplement, c'est de la fantasy ninja type Ninja Scroll ou Basilique pour les plus vieux d'entre nous.
Ah oui.
En résumé, c'est sombre, viscéral, mais sans être cynique. Si, par exemple, si vous trouvez que Demon Slayer est trop classique, si vous voulez un truc un peu plus tordu, je vais dire, Hell's Paradise serait parfait. En plus, c'est une série qui, elle a pris une thématique très utilisée, c'est une sorte de battle royale sur une île, avec des entités grotesques, des arts martiaux magiques, des trucs un peu sombres, des ennemis tordus, mais... Elle n'est pas du tout tombée dans ce travers de rajouter des personnages. Non, le casting a été resserré. Les antagonistes révélés en milieu de série ont été maintenus et on s'aperçoit que c'est vraiment un antagoniste complexe. Et si sur la fin, sur quelques tomes, les combats sont un peu plus longs, mais c'est parce que c'est le combat final et ça doit être épique. Donc une très bonne fantasy ninja, intéressante à lire en 12 tomes, ni trop long ni trop court. Donc Hell's Paradise, n'hésitez pas.
Je note parce que j'avais vu passer aussi, c'est vrai, mais on en a un peu discuté, mais j'avais noté le titre et en plus, bon, 12 tomes, ça reste tout à fait correct par rapport à des sagas fleuves qui n'en finissent pas.
En plus, le dessin, il est très bien, c'est qu'il arrive à partir d'un dessin dit entre guillemets mainstream, qui plaît au plus grand nombre, mais qui arrive à donner une identité assez forte, un caractère, notamment dans la représentation de la violence physique ou quand les personnages réfléchissent à leur névrose, etc. Alors, ça reste une série où il y a de l'humour, où il y a de l'action. Il y a vraiment un dessin très typé. Très, très, sans être, tu sais, comme on dit, un dessin typé, mais qui n'est pas agréable. Oui. Non, le dessin reste dynamique et les scènes d'action sont lisibles. Très intéressant. Il y aurait normalement une adaptation animée, mais à
Ah.
cause du Covid,
Ah.
les informations ont été coupées. Ça a été un succès au Japon aussi, donc ça peut, on peut comprendre qu'avec 12 tomes, tu puisses faire facilement une série en 26 épisodes, quoi.
Ouais, oui, j'imagine.
Et enfin, la dernière série qui se conclut, alors ça peut étonner certains, c'est Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Alors, pour la petite blague, pour moi, Tatsuki Fujimoto, que j'avais découvert avec sa précédente série qui s'appelait Fire Punch, c'est un type, il en a tellement que faire des codes ou de déconstruire les codes qu'il a une capacité à être impertinent sans faire le petit malin. Il est toujours à la limite, il peut partir dans des tripes visuelles, dans des réflexions sur la société. Et en fait, Chainsaw Man, on pourrait croire que c'était un gimmick, c'est un individu qui peut se transformer en tronçonneuse humaine pour tuer des démons. On peut penser que c'était un gimmick de série B, voire série Z, mais le type il est tellement au-delà de la case où tu peux lui mettre qu'il arrivait en plus en 11 tomes. En plus, il a décidé, malgré le succès, de faire une série en 11 tomes, de conclure sa série. Alors, bien sûr, il va y avoir une suite, et c'était dans le Weekly Shonen Jump, donc des ouvrages plutôt jeunesse, et il va passer dans un ouvrage beaucoup plus dit seinen, donc pour adultes, donc il aura moins de contraintes. Donc ça pourrait être très intéressant de voir ce qu'il peut faire. Mais déjà, les 11 premiers tomes, c'est vraiment quelque chose de bien particulier, vraiment entre la série B d'action efficace, mais qui peut se permettre un trip.
Ah oui, j'avais oublié que c'était dans le Shonen Jump, parce que c'est vrai que tu t'attends pas forcément à ce genre de série. C'est vrai que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je le voyais comme un seinen déjà, donc.
Ben, tu sais, c'est un peu comme ce qui arrivait à Jojo, tu vois, beaucoup de gens, ils s'étonnent, mais à la base, c'était un shonen, et puis
Oui.
assez dans le temps, ils l'ont replacé dans ce qu'ils appellent, c'est un peu le grand frère du Weekly Shonen Jump, quand les contraintes éditoriales sont trop dures pour une série très populaire, hop, ça monte en gamme dans un autre magazine de prépublication. Après, il y a aussi une nouvelle tendance, c'est que maintenant, il faut savoir que depuis 2015, je crois, la prépublication se fait majoritairement sur format numérique et beaucoup moins sur papier.
Oui, c'est vrai.
Ce qui permet aux auteurs de tenter plus de choses parce que c'est beaucoup moins sélectif, parce que comme il y a place sur les serveurs et qu'au final le public vote en direct, et souvent l'auteur prend un risque, l'éditeur l'autorise à le prendre en disant tu seras jugé par ton public. Et il y a des séries qui peuvent, pour un éditeur frileux, ah c'est un peu trop violent pour la jeunesse d'aujourd'hui, eh ben, la jeunesse elle aime. Et il y a des séries comme ça qui arrivent à très rapidement avoir un gain de popularité et voire être prépubliées en physique grâce à ça. On en parlera d'une dans quelques temps. Ben, d'ailleurs, c'était ma dernière série qui se conclut, donc quatre séries qui, si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne se finit pas ou simplement vous aimez savoir, vous avez quand même quatre propositions sympathiques en 2021. Et on se plaint souvent des séries à rallonge, hein, souvent pour les mangas dans la décennie précédente, c'était un peu limite un cliché. Là, maintenant, on a 2021 nous a montré qu'on peut finir des séries.
Ouais, bah c'est peut-être un peu comme le. Finalement, je sais pas si j'aurais osé ce parallèle, mais c'est peut-être un peu. Parce que les deux lectorats sont pas forcément les mêmes, bien sûr, mais c'est peut-être à mettre en parallèle avec le succès des novellas on va dire en roman, enfin en roman du coup en littérature, mais bah, des formats plus courts avec des histoires uniques, avec là pareil, des séries plus courtes en une toute petite dizaine de tomes pour ce qui est des mangas, comparé à des sagas de 50 ou 60 ou plus tomes.
C'est surtout que maintenant la prépublication ne rapporte plus autant d'argent, c'est vraiment les volumes reliés. T'as peut-être pas forcément, c'est des volumes importants à mettre en place, etc. Donc en jouant sur cet équilibre que les Japonais très pragmatiques font entre, on peut avoir le numérique pour diffuser à peu de prix une série, et effectivement sélectionner celles qui seront en tome physique, etc. Ce qui permet d'avoir limite de marché, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors, pour 2021, j'ai quand même voulu sélectionner au moins un tome unique pour quelqu'un qui se dit, ok, c'est bien les mangas, les séries, mais il n'y aurait pas aussi des mangas qui sont un peu des one-shot, une belle BD autodépendante. Alors, je mettrai en avant les chefs-d'œuvre de Lovecraft, deux points, celui qui hantait les ténèbres de Gou Tanabe. Alors, vous n'avez qu'à réécouter l'excellent podcast Hellbacking sur Lovecraft et ses adaptations. Gotanabe propose une excellente adaptation des œuvres de Lovecraft, et en plus, l'édition française, c'est un bel objet à prix modeste. Je ne sais pas si tu avais déjà touché un de ces objets,
Oui.
Kylosen.
C'est vrai qu'ils sont vraiment, enfin, ils payent pas, enfin, si, justement, ils sont plutôt beaux. Je veux dire, ils payent pas de mine par rapport à leur prix, peut-être. Mais non, ils sont plutôt très réussis. Et c'est vrai que après, j'ai l'impression qu'il y en a un tous les 2 mois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a de quoi faire si on veut tout adapter.
Alors tu sais, ça dénote beaucoup dans le monde du manga, parce que tu regardes dans une librairie spécialisée manga, tu vois, déjà c'est un format livre grand format, avec une couverture simili-cuir.
Oui.
Je sais pas s'ils sont si présents, mais ils dénotent bien.
Oui, bah ça c'est clair. Ouais. Non, mais ils sont très jolis. Puis c'est vrai que bah c'est une autre façon d'aborder le mythe, c'est le cas de le dire.
Enfin, en 2021, il y a ce que j'appelle de belles continuités. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les séries qui sont continuées. Il y a plus de 200 mangas qui sortent par mois, et pas mal peut être attaché à la fantasy. Et je
C'est vrai.
dirais que Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, un peu les grosses locomotives du Weekly Shonen Jump, donc l'un, c'est Demon Slayer, on est vraiment dans la fantasy samouraï, très classique, avec un charme suranné qui lui donne beaucoup de charme. Ça se passe à l'époque Taisho, et pour vous dire, faire une petite comparaison un peu cavalière, c'est un peu comme nous, l'époque victorienne, et on pense au steampunk. C'est assez grossier, mais c'est une époque d'ouverture du Japon à l'Occident, mais ils gardent beaucoup leur culture. Donc il y a un très bel esthétisme, et en plus, Demon Slayer, il est vraiment là, à son tome 19 en 2021, il a vraiment monté en puissance, parce qu'une des grandes qualités de cette série, c'est que chaque arc scénaristique s'enchaîne et ça monte. C'est des combats, mais c'est des combats de plus en plus épiques. Il y a plus de personnages, plus de conséquences. Les adversaires deviennent limite des horreurs Lovecraftiennes. Là, on est vraiment dans cette montée en puissance. Et en plus, c'est une série qui s'est finie au 23e tome. Donc là, une belle lancée en 2021, et la série se conclura en 2022. Et bien évidemment, ce qui marche très bien en France, on est aussi en plein milieu des adaptations de très grande qualité. Et comme c'est une série qui en 23 tomes, ils peuvent prendre le temps, ils vont pas mettre des fillers, ils vont vraiment magnifier, adapter la série pour bien être représentée à l'écran.
Ah bah ça c'est sûr, hein. Franchement c'est impressionnant visuellement, même le moindre épisode, mais justement il n'y en a pas tellement, mais n'importe quel épisode finalement est du niveau de qualité du film, quoi.
Après, je peux comprendre qu'on préfère l'animé au manga, mais pour les lecteurs de manga, ce qui a fait beaucoup son succès, c'est que vraiment, des fois, il y a des planches, c'est limite des estampes japonaises. Il y a vraiment un charme, hein, qui est, même si c'est toujours classique, un héros qui, avec des arts martiaux magiques, va tuer des démons avec un katana, mais la représentation, il y a un côté aussi très théâtral, qui peut faire penser un peu au kabuki. Donc, il y a vraiment ce charme très particulier. Ils ont réussi ça à l'adapter à l'image, parce que, tu vois, sur un manga en noir et blanc statique, tu veux mettre en scène, tu vas avoir un dessin, bah, qui va limite ressembler à des kanji, alors que quand ils ont fait l'adaptation, ils ont vraiment retravaillé le visuel pour qu'il y ait ce même effet à l'écran. C'est assez remarquable.
Ah oui, non, je suis d'accord.
Et c'est la même chose pour Jujutsu Kaisen, qui lui aussi, dans sa lancée, alors on est plus dans la fantaisie urbaine, mais vous savez, la fantaisie urbaine japonaise qui est toujours un peu mi-horrifique, ça donne toujours une impression d'université de magie. Mais là, on a vraiment une belle dynamique centrée sur des personnages en couleur. Et si la mangaka, elle a des influences, ok, elle a des influences sur tout ce qui est paru jusqu'à présent, mais je pense qu'elle est un petit peu influencée par Jojo Bizarre Aventure. Il y a ce côté un peu, moi je mets des personnages classe qui ont une belle identité, qui en eux-mêmes sont une histoire, et ça donne ce charme à Jujutsu Kaisen. Les personnages sont tous très intéressants, les secondaires, et on attend que l'intrigue se déroule, mais en plus l'adaptation est magnifique, hein. On arrive vraiment à bien mettre en scène les personnages. Là, c'est vraiment, ça appuie sur les points forts de la série.
C'est vrai que je pense que c'est une de ces séries dont il y a carrément des pubs dans la rue, quoi. Donc déjà, tout de suite, ça montre bien que c'est déjà un grand succès, parce que ça arrive pas quand même tous les jours. Alors que le manga, c'est quand même en France, c'est quand même quelque chose qui en général se vend très bien. Mais c'est vrai que quand tu commences à avoir de la pub sur les panneaux publicitaires dans la rue, c'est la preuve que le manga a quand même su vraiment toucher un large public.
Ben, en fait, c'est les éditions Kyoto qui sont très comme ça. Ils
Oui.
vont vraiment pousser leur série au maximum quand il y a un potentiel. Et vu le succès que ça avait eu au Japon, pour des raisons, ça va aller un peu plus loin que le classique. J'ai un lycéen qui a des pouvoirs magiques. Non, il y a vraiment. J'aime bien, moi, ce côté un peu mirifique, sans exagérer. On n'est pas dans la déviance d'un Chainsaw Man, mais il y a ce côté vraiment pas mal. C'est pour ça qu'il y a un peu un petit goût de Jojo. Tu sais, dans le côté un peu. On frise le grotesque, mais sans être ridicule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, non, je vois très bien, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est moi, ça, c'est un de ces succès qui surprend pas vraiment, quoi. Enfin, qui surprend en bien, si on veut, mais je veux dire, en tout cas, c'est pas une surprise en soi, mais c'est vrai que Kihun ils sont très très efficaces niveau com et niveau marketing, ça c'est clair.
Si tu veux, ils avaient leur shonen super-héros avec My Hero Academia,
Bah oui.
mais il leur manquait le côté fantasy. Et tu sais, le fondateur est un très grand fan de fantasy. Je ne sais pas si tu avais lu des interviews de lui. Et il
Non.
recherche toujours à installer des séries de fantasy.
Ah bah chouette.
Et enfin, la dernière belle continuité. Alors là, on n'est plus du tout dans le tueur de démons très viril, hein. C'est l'atelier des sorciers.
Ah
Je sais
oui.
pas si tu connais.
Oui.
Alors, moi, ce que j'aime bien dire de l'atelier des sorciers, c'est l'aristocratie du mignon. C'est l'adorable, mais c'est la version premium. On connaît tous toutes ces tendances ce côté un peu, on va montrer des personnages mignons, faire des choses mignonnes. Sauf que là, c'est plus que ça. Il y a vraiment un univers, une direction artistique. Il y a tout un discours. Il y a la magie, c'est un artisanat, c'est le dessin. Il y a vraiment tout un discours sur une société basée sur la magie, toutes les strates que ça indique, un grand discours sur comment on échange, on fait transmettre le savoir et le pouvoir, donc. Donc, vraiment une série qui va vous toucher à différents étages. Elle est relativement célèbre. Bien évidemment, elle n'a pas encore d'adaptation animée, mais cela ne saurait tarder. Je crois que j'avais vu une annonce il y a quelques temps. Et son seul défaut, c'est que c'est à chaque tome que tu vas lire, ça prend son temps, mais tu t'ennuies pas. Mais les tomes sont rares. Et là, on est arrivé à l'apparition française, à rattraper l'apparition japonaise, et on ne sait pas vraiment le rythme de parution, en fait. Mais c'est toujours très agréable, hein. Je pense que les fans de l'Atelier des Sorciers relisent tous les tomes dès qu'il y a un tome qui paraît.
Oui, ça
Non,
peut
non,
être une solution.
c'est une belle continuité.
Bah super, super. Je peux rien ajouter de plus. Si ce
Alors,
n'est
je me
si
permettrai
ce
un dernier titre
Oui, vas-y.
qui est un peu inconnu, qui s'appelle Bun Man. Et qui est. Alors,
Effectivement.
la mangaka est connue, c'est Tanabe Yello, elle avait déjà fait un shonen par le passé. Mais en fait, c'est vraiment sa thématique à elle, alors, ça va faire rire tout le monde, mais c'est la complexité de la communication. Elle a été capable de créer une mythologie basée sur des êtres mi-humains, mi-oiseaux. Et vraiment, ok. Des histoires avec des adolescents transfigurés dans un monde construit sur un équilibre masqué des menaces, c'est assez commun, mais là, c'est très très bien mis en scène. Tu as vraiment un traitement intelligent de personnages adolescents. Ils ne les font pas passer pour des adultes stupides. Et aussi, c'est des adolescents qui savent interagir avec des adultes. Et c'est une série qui prend son temps et qui a eu un très bon succès au Japon et elle est surtout conclue en 16 volumes. C'est les éditions Vega qui sont à nouveau sur le marché et qui ont voulu avoir ce titre assez respecté au Japon pour se lancer. Alors malheureusement, quand il y a eu le Covid, ils ont eu très mal lancé leur manga et en 2021, ils ont tout relancé du tome 1. Et là, en 2021, on a eu les 8 tomes, en fait, j'ai l'impression.
Ah oui.
Et j'espère pour eux qu'ils vont avoir ça comme locomotive parce que c'est une très bonne série qui vraiment. Montre l'adolescence et arrive à créer une mythologie. Vraiment, tu as vraiment l'impression, tu as des êtres nouveaux. C'est pas juste des humains avec tu sais, des humains qui ont une compétence. Là, tu
Oui.
as vraiment des êtres, parce que je vais pas spoiler, mais ils ont vraiment des capacités de communiquer qui vont pas être ceux d'un humain. Donc là, il y
D'accord.
a vraiment, et ça se tient, et tu as une montée en puissance, une conséquence sur l'humanité, et c'est assez ambitieux. Je crois que Vega, j'ai le thème sous les yeux, effectivement, eux-mêmes, ils le classent en seinen, tu vois.
D'accord.
Pour vraiment toucher un public large.
Ben, je note, c'est vrai que ça a l'air de sortir du lot.
Et enfin, la nouveauté de 2021, qui a eu une très grosse mise en place, c'est Kaiju numéro 8 de Matsumoto Naoya. Alors, c'est un titre qui est très récent au Japon, hein. Ils ont que quelques tomes d'avance sur nous. Il n'y a pas eu d'adaptation animée, mais Kaze a décidé de dire ah, ça faut que ça vende. Alors, on peut se dire c'est facile de parler de kaiju. Kaiju, c'est ces monstres géants apocalyptiques, hein. Dans la culture japonaise, un kaiju, c'est un monstre qui peut détruire l'humanité. C'est vraiment la peur absolue. Cthulhu est un kaiju, si vous voulez. Après, on peut avoir des déclinaisons variées, hein, dans toute la culture populaire japonaise. Et là, vraiment, en fonction des époques, là, Kaiju No. 8, c'est vraiment le manga d'action fantasy. Je dis de la fantasy parce qu'au Japon, le kaiju, c'est de la fantasy parce qu'il s'accorde toutes les explications et voire ne pas faire d'explications. On est limite dans le mysticisme avec le kaiju. Et là, c'est extrêmement efficace, extrêmement pertinent avec notre époque. Et c'est vraiment tu sais, le shonen se doit d'être galvanisant. Tu sais, quand tu le lis,
Oui.
t'es remonté à bloc des fois. Et bien, il a ce pouvoir-là, ce Kaiju No. 8. En plus, il a fait une prise de risque. Alors, ça va vous faire rire, mais son héros, il a 30 ans.
Oui, c'est vrai.
Il faut savoir que ça peut faire que le manga ne marche pas. Alors, il avait pré-publié sous format numérique, comme je te disais en préambule. Et comme il y a eu un énorme succès, tous les gamins, ils étaient fans de ce héros, qui, bah, c'est un trentenaire sympathique et assez plausible. Bien évidemment, il a des pouvoirs. Mais c'est un peu un daron grand frère et ça le rend un peu original. Et finalement, bah, ils ont lancé la publication un peu plus à grande ampleur avec les tomes physiques et ça marche très bien.
Oui, c'est vrai, j'avais noté ça quand le manga a débarqué, qu'il y a eu des articles un peu partout, hein, clairement, même dans Le Monde, etc. J'avais noté que c'était vraiment mis en avant le côté trentenaire du héros, comme finalement originalité qui le distingue d'une partie, en tout cas, de la production.
Ben, ce qui est marrant, c'est qu'il est vraiment en déphasage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir ce rôle de, tu sais, le jeune prodige ou
Oui.
celui qui est obligé de galérer mais qui va être trop fort. Non, lui, il est vraiment à part, en fait, dans ce monde où c'est les jeunes qui doivent sauver le monde. Et aussi, à la limite, ça, c'est un gimmick, mais en plus, ce que j'aime beaucoup avec les kaijus, tu vas pas vendre des kaijus, et ce qui avait fait le succès de l'Attaque des Titans, s'il n'y a pas des effets d'échelle impressionnants. Et
Oui.
franchement, l'artiste est capable de faire des changements d'échelle entre les humains, les kaijus, les différentes tailles de kaijus, les armes des humains, etc. Et il y a vraiment de sacrés, un dessin très dynamique. J'espère que le jour où ils font une adaptation, ils sauront faire quelque chose d'aussi impressionnant que de l'attaque des titans. Ça sera beaucoup plus, je pense, héroïque que survivaliste, mais ça fait une proposition différente.
Oui, bah clairement, c'est vrai qu'il faudrait qu'il respecte ça. Sinon, ça va l'adaptation y perdra.
Ah, c'est clair. Et ce qui m'amène un peu à des tendances que j'avais personnellement cru voir dans les années précédentes et que maintenant, en 2020, donc en 2021, commence à se cristalliser. C'est ce qu'on appelle les shonen, tous ces mangas jeunesse très populaires avec de l'action, des scénarios, des temps d'attente assez longs. Et j'ai vraiment l'impression que depuis Demon Slayer, Promised Neverland, et dans un sens aussi l'Attaque des Titans, maintenant on a des entrées en matière dynamique, des enjeux clairs dès le début. Je pense que ça peut permettre de faire des séries beaucoup plus courtes, en 20-30 tomes. Plus trop de chapitres en mode standalone au début avec le monstre de la Fed ou la petite problématique. Histoire que on ait temps de voir si la série a du succès et puis l'auteur va commencer à dire des trucs intéressants. Ça, c'était très commun dans les années 90, voire les années 2000. Là, vraiment, ça démarre plein badin. Et Demon Slayer, The Promised Neverland, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Kaiju No. 8, ils ont toutes leurs petites singularités. Mais on sent vraiment cette nouvelle tendance que bah, nos titres, il faut que ça percute, il faut vite que le lecteur y comprenne si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. On a la concurrence de médias comme les jeux vidéo beaucoup plus accessibles, mais on a une bande dessinée, on a une narration. Donc ils ont vraiment un peu, ils sont pas endormis sur les lauriers, sur leur code traditionnel, et ils essaient d'être un peu plus dynamiques, un peu plus narratifs dès le début. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui permet à des séries de bien s'affirmer, d'avoir de belles adaptations, et j'espère qu'à l'avenir, on aura chaque année, une ou deux petites perles qui va sortir de toutes ces prépublications jeunesse. Et en plus, clairement, ils ciblent maintenant notre cœur de cible, c'est la jeunesse, mais on sait qu'on a un lectorat qui va jusqu'à la trentaine. Donc là aussi, ils n'hésitent pas à positionner leur série dans un spectre démographique un peu plus large, et c'est assez intéressant.
Et du coup, est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être aussi venir de la tendance de la prépublication en numérique? Parce que du coup, s'il y a plein de séries qui doivent se distinguer, peut-être que les auteurs veulent démarrer justement pied au plancher.
Exactement, ça aussi, ça te... Alors d'un côté, ça leur met une certaine pression, d'un autre côté,
Oui.
ça leur permet d'avoir leur chance, tu vois. Moi, par exemple, il y avait un manga qui était paru il y a quelques années, et c'est un héros, il a 70 ans. Et en fait, et c'est très intéressant de voir un peu, on est toujours dans le concept du vieux, mais comme c'est très important le facteur d'identification pour le lectorat, c'est des prises de risque que ne voulaient pas prendre les éditeurs, ce qui peut être un non-sens, mais grâce au numérique, il y a ces prises de risque. Oui, ça peut perdre un public. Les éditeurs, peut-être, ne connaissent pas tant leur public que ça. Donc, ils sont prêts à profiter de la grande, du vaste monde. Mais tu as aussi le problème de, tu peux vite être noyé face à la concurrence.
Oui.
Les formats, souvent, ont une influence sur l'art, en fait. Et
Oui.
clairement, dans des médias sériels comme ça, oui, ça a un gros impact.
Ouais, non, mais je suis. C'est vrai, c'est vrai.
Alors, quelque chose qu'au contraire qui est en train de ronronner, alors peut-être qu'il y aura un renouveau d'ici quelques années, c'est peut-être tu as déjà entendu parler cette expression l'isekai qui est
Oui.
très utilisée en Occident, hein. En fait, l'isekai, je tiens ça d'un journaliste que je trouve très, très intelligent, elle n'est pas de moi, mais ça résume très bien. L'isekai, c'est une appellation feignante pour un sous-genre feignant. En fait, les isekai, il y a un héros ou une héroïne qui meurt. Il se réincarne dans un univers de fantasy très stéréotypé pour que tout le monde puisse le reconnaître hein, à travers des archétypes très visuels, hein, des classes de personnages des jeux de rôle ou des jeux vidéo ou des armements issus de séries télé. Boum, on est projeté dans un nouvel univers. Donc généralement, ces isekai, ils ont le world building d'un jeu vidéo sur téléphone portable. Ce qui permet d'avoir une production massive. Souvent, c'est beaucoup des light novels, c'est romans un peu de romans de gare. Donc pour les aider, on va les adapter sous forme de manga, sous forme d'animé, pour capitaliser sur l'effet transmédia qui permet de toucher le maximum de public. Et en 2021, je m'aperçois avec tous ces nouveaux éditeurs, vu que les mangas se vendent un peu plus par rapport à quelques dizaines d'années, il faut des nouvelles séries. Et comme il y a une surproduction de ces isekai, on se retrouve avec une imagerie de fantasy, parce que c'est. Cette espèce de fantasy un peu cliché, jeu vidéo, classe de perso,
Bah là, oui.
ça sature vraiment les mangas quand on se dit je veux un manga de fantasy. Les gens ils pensent pas forcément à manga de fantasy Demon Slayer par exemple, parce que c'est la fantasy plus japonaise. Donc au final, avec cette sursaturation, il y a toujours des perles rares, de très bonnes séries. Hein. Je ne jette pas l'opprobre sur ce fait que tu peux te réincarner, surtout dans la culture japonaise. Le bouddhisme fait que c'est comme un peu nous, l'élu par rapport au christianisme, ça peut être un lieu commun accepté. Cependant, dans cette saturation, on a quelques déviances qui vont attirer la réflexion ou l'intérêt, des perles rares qui vont durer dans le temps. On a 80-90% de la production qui essaie de tenter, avec un titre rigolo, une sorte de twist pour faire croire qu'on est au-delà des clichés alors qu'on fait que se moquer de ce qu'on est, en fait, un amas de stéréotypes. Et je vois des séries que tu peux tenter le premier chapitre ou le premier tome, mais elles s'enfoncent dans la banalité très rapidement, hein, ça ronronne, on est dans la tranche de vie, on voit des petits archétypes, on essaie de jouer avec ça, des petites quêtes, mais au final, ça ferait très comme dans les années 90, tu sais, les romans de jeux de rôle, le Donjons et Dragons, quoi. Ça fait un peu penser à ça, mais surmultiplié, par le fait que l'imagerie du jeu vidéo permet de beaucoup plus dire à quelqu'un, tu vois, ça c'est de la fantasy.
Oui.
Alors je sais pas si tu as eu quelques isekai que tu as trouvé quand même remarquables, toi.
Oh, remarquable, j'irai pas jusque-là. Disons que, en fait, ce qui m'épate plus sans forcément les avoir tout lus, parce que moi, ça m'a très vite, justement, ça m'a très vite semblé vraiment redondant, c'est qu'en tout cas, les héros ou héroïnes se réincarnent vraiment en plein de trucs, hein, parce que, comme tu dis, rien que les titres, le nombre de créatures, oui, enfin, surtout de créatures d'ailleurs. Ou de fonction aussi, parfois c'est le métier. Y a vraiment de quoi faire. Bon, le seul que j'avais trouvé un peu, enfin le seul récent que j'ai trouvé un peu rigolo, mais le nom m'échappe, c'est celui avec comment ça s'appelle déjà?
Raiden King avec
Oui, c'est ça, avec en gros Poutine quoi. et en héros, mais parce que c'est complètement, effectivement, pour le coup, disons qu'il
C'est un
fallait.
peu déviant, c'est un peu intéressant quand même. Tu vois, c'est quand même, faut avoir du culot pour faire ça. Ça, je le respecterai. Mais après, moi, je vais t'en parler un qui s'appelle Les racailles d'un autre monde,
Ah
qui est sorti
oui.
en 2021. Ben, tu vois, tu vas rigoler parce qu'en fait, c'est pareil, c'est des racailles, des délinquants japonais qui sont projetés dans un univers de fantasy. Et le twist, c'est dire, mais contrairement au cliché, c'est un joueur de jeux vidéo, lui, il voit un homard, il va chercher une tronçonneuse, il va le couper. Par exemple, on lui dit, tu vois, ça c'est l'épée du héros plantée dans la roche, il va chercher un marteau piqueur parce que c'est un prolétaire. Donc il y a ce côté un peu des bagarreurs de la cité d'à côté, eux ils n'ont pas besoin de connaître les codes du jeu vidéo. C'est très rigolo. Par exemple, il y a un orc qui arrive, il le bat en duel à coups de poing, et il croit que ça va devenir son meilleur ami parce que c'est comme ça dans l'amitié virile des quartiers, mais c'est un orc, c'est un ennemi. Mais une fois que t'as rigolé de ce décalage entre les clichés des racailles et le cliché de la fantasy, bah après, ça tombe, bah ça part de jeu. Ils ont des pouvoirs de jeu vidéo, ils partent comme dans un jeu vidéo, ils vont sauver le monde, et voilà.
Ah oui, c'est dommage parce qu'effectivement, celui-là, j'avais noté la sortie, parce que le titre, voilà, le titre m'avait quand même paru vraiment étrange, et effectivement assez rigolo, mais c'est vrai que il y a un côté très, très formule au bout d'un moment, si tu n'emmènes pas ton histoire au-delà de ça, j'imagine, c'est vrai que tu tournes toujours, enfin tu finis par vraiment par tourner en rond dans cet univers-là, quoi, c'est le cas de le dire. C'est un univers avec des limites, peut-être pas géographiques parce que tu dois toujours avoir une région nouvelle à explorer, mais bah, sur le principe même des rebondissements, c'est dommage, mais c'est pour ça que je trouve qu'effectivement il y a tellement de titres de ce genre, et avec parfois des adaptations aussi derrière, que moi je serais un éditeur, en tout cas en 2022, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont prévus. Au lancement en France, mais peut-être que c'est déjà en train de. Enfin, ou alors les gens, ça les dérange vraiment pas de lire X fois la même chose, mais à ce point, je sais pas.
Bah, tu sais, enfin là, je passe du spectre du manga, de la BD. Tu arrives à avoir quelques jolies perles par les adaptations animées, il y a, justement parce qu'elles prennent vraiment à cœur justement ce côté métatextuel du jeu vidéo. Tu as une franchise qui s'appelle ReZero, où justement le personnage peut mourir, mais au sein même de son univers, et comme dans un jeu vidéo, il y a une boucle. Sauf que c'est pas si facile que ça. Donc vraiment, le concept jeu vidéo est pris au premier degré. Et ça peut développer un discours assez intéressant. C'est une très bonne série. Et pareil, il y avait une autre plus récente, qui n'est pas 2021, c'est un peu hors sujet, c'est Jobless Incarnation. Donc c'est en gros, c'est quelqu'un qui a raté sa vie, dans le monde qu'on ne comprend pas, il meurt, mais il se dit, je vais faire la vie parfaite d'un héros de fantasy. Et vraiment, tu suis tout le parcours, et là, tu es dans une logique de parcours de héros, et on a un peu l'impression de voir comme un personnage qui monte Mais là, t'es moins dans la caricature du level up de l'XP, c'est limite des carrières qui ressemblent plus à un jeu de rôle papier pour le coup. Donc, t'as des séries qui arrivent quand même à surnager, hein, il n'y a pas de souci. Et clairement, quand tu vois c'est souvent des adaptations, en plus, ces mangas, tu lis pas directement le bouquin. Donc, ça reste vraiment la facilité pour moi des gens. Ah, les gens, ils aiment la fantasy, on fait du manga, allez, hop, les droits ne doivent pas être très chers, je me permets de l'imaginer. Donc c'est pour ça que vous avez des mangas un peu comme ça.
Ah oui, bah moi je suis abonné à Crunchyroll et c'est vrai que quand tu regardes les séries classées soit par les derniers épisodes arrivés ou les séries les plus populaires, bah je sais pas, tu dois avoir une série sur trois, c'est ça quoi, c'est ce principe-là. J'ai presque l'impression quoi. Donc bon, peut-être pas une sur trois, mais une sur quatre. Donc ça représente, je trouve, une partie effectivement non négligeable des adaptations.
Et le dernier point pour mettre un dernier coup de pied, ça aussi alors c'est pas fait exprès, hein, ça vient pas des isekai, mais par chez nous, ça continue d'enfermer la fantaisie dans, tu sais, cette imagerie
Ah oui.
médiévale édulcorée, tu vois.
Oui, non, je suis d'accord, c'est vrai que c'est toujours le même univers en gros. C'est vraiment un univers, effectivement, comment dire, très sans aspérité, quoi. Typiquement ce que t'attends d'un univers fantasy, de base, j'ai envie de dire.
Alors, ce qui m'amène dans mon dernier point que je voulais aborder, hein, c'est je voulais faire un hommage à Kentaro Muera, l'auteur de Berserk, qui est décédé cette année. Et en fait, plutôt que de refaire un hommage à sa très grande culture de la fantasy et lui, l'influence qu'il a eue, pour moi, il était intéressant d'observer, notamment sur le forum d'Eldbacking, que Berserk laisse vraiment un vide. C'est vraiment un manga un peu de référence, comme s'il n'y avait aucun manga analogue. C'est vraiment une série qui a accompagné un parcours de lecture et qui, clairement, fait partie de ces mangas. Et en fantasy, je pourrais pas en citer beaucoup. C'est vraiment, vous savez, ce manga qui dit, hey, maintenant, ça, c'est pour les adultes. Donc, un manga fantasy adulte pour plusieurs générations, ça a souvent été Berserk. Alors, quand on regarde ça, moi, de mon prisme, qui aime lire beaucoup de mangas différents, je me dis, ah, ils exagèrent quand même, les gens. Moi, je pourrais leur citer des mangas sombres, ambigus, viscérales. Puis je m'aperçois que, ah, mais c'est très ancré dans la culture japonaise. Vraiment, cette fantasy sombre, occidentale, de haute qualité, ah, c'est vraiment pas commun. Alors, j'arriverai, surtout, alors, si on en est dans le spectre de l'immatériel, je pourrais par exemple citer la série Nosferatu de Shinjiro, qui est en 4 tomes, qui est une belle héroïque fantasy occidentalisée, qui sait être sombre, avec une très belle relecture du mythe du vampire à une époque médiévale. Mais c'est vrai. Et en lisant une interview de cet auteur, d'ailleurs, ça m'a permis d'observer que, et Kento Muira l'avait dit dans une interview lui aussi, quand on s'intéresse à l'époque médiévale, qu'elle soit occidentale ou japonaise, elle est forcément violente et ambiguë. Et rajouter de la fantaisie sans faire dans la surenchère, toujours en étant pertinent, c'est pas à portée de tout le monde. De plus, l'époque médiévale, c'est dépeindre une société féodale, une société où il y a de l'enfermement social. Et en plus, c'est encore plus difficile quand c'est pas votre culture. Nous, les Occidentaux, quand on s'intéresse aux samouraïs médiévaux, ils apparaissent comme violents, fanatiques. Et bien pour les Japonais, quand ils s'intéressent à la chevalerie, les croisades, tout ça, c'est extrêmement sombre et violent. Donc ils prennent ça très au sérieux, voire ça peut être difficile à placer auprès d'un éditeur. Et Kentaro Miura disait que pour lui-même, la fantaisie est sombre et elle ne peut être qu'édulcorée pour justement donner ces fameuses fantaisies un peu jeux vidéo. Lui, il a connu l'époque où c'était les débuts des Dragon Quest dans les années 80-90. Donc lui, il voyait qu'il était un lecteur de Tolkien, de Moorcock et d'une autrice japonaise assez célèbre qui est Karou Kirimoto, hein, Gwyn Saga. Lui faisait cette différence parce que c'était sa génération. Et oui, hein, c'est normal que les gens ressentent un vide et au surtout ressentent que Berserk est un peu unique parce qu'un médiéval fantastique radical, épique, surtout dans les premiers tomes de Berserk, c'est pas évident à créer pour n'importe qui. Et on pourra toujours trouver des équivalents dans une propre culture, mais oui, Murat était ce génie qui a été capable d'assimiler, de domestiquer des représentations cinématographiques, artistiques, littéraires, occidentales à sa propre culture japonaise pour proposer Berserk, à une époque où il n'y avait pas cette mode des isekai que montrer ne serait-ce qu'un guerrier avec une épée, c'était pas forcément à la mode à l'époque. C'est quand même assez extraordinaire et je voulais lui rendre hommage parce que c'est vraiment l'exemple qu'un auteur qui a été original dans son époque, dans son contexte, et il va laisser une marque.
Ah oui, bah moi je suis tout à fait d'accord, hein. C'est vrai que ça a été quand même un des événements. En plus, alors je sais pas, peut-être que je suis pas l'actualité éditoriale japonaise d'assez près, mais en tout cas je sais pas s'il était malade, mais j'étais pas du tout au courant, donc ça m'a vraiment surpris le jour où sa mort a été annoncée. Et c'est vrai que moi ça m'a accompagné, notamment les premiers tomes et surtout la première adaptation. Ça m'avait vraiment marqué dans mon parcours de lecteur. Surtout que la première adaptation s'arrête quand même sur le moment clé, on va dire, ou un des moments clés en tout cas du manga. Et c'est vrai que dans un autre registre, je sais pas, il y avait vraiment rien, j'ai jamais rien retrouvé de vraiment similaire. Il y a eu des mangas un peu de, effectivement, de dark fantasy, on va dire. Je pense, je sais pas, à Claymore, qui était publié par Glénat, par exemple. Mais c'était pas, enfin, bon, déjà, j'ai jamais trouvé que Claymore c'était fou. Mais ça allait quand même vraiment pas aussi loin et c'était pas pour moi aussi aussi vraiment comment dire conçu la moindre que ce soit la moindre réplique surtout Guts qui parle pas beaucoup la moindre case etc. Berserk bon c'est né à peu près en même temps que je crois que Bastard mais un autre de mes mangas cultes mais Bastard c'est tellement enfin ça joue tellement plus sur l'humour. Même s'il y a des passages un peu violents ou sombres, mais c'est pas du tout la même ambiance. Donc ça peut pas vraiment se comparer non plus, même s'ils ont eu des parcours finalement un peu similaires. Mais ouais, j'ai longtemps cherché, mais une série comme ça, qui en plus finalement a duré quand même plusieurs dizaines de tomes malgré tout, ça reste assez unique.
Moi, de toute manière, mais c'est un peu ma culture manga, voire comics, je peux conseiller, et je pense que tu es d'accord avec moi, que lire, on appelle ça l'arc de l'âge d'or, hein. Toi, tu es plus expert de Bézard que moi. Clairement, si les gens ne veulent pas se lancer dans une série qui n'est pas finie ou qui peut-être a changé sur la fin, on peut très bien appréhender une série dans une section bien définie, en fait. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, bah après, oui, non, mais je suis d'accord, parce que ça pourrait s'arrêter là. Bon, maintenant, dans ce cas-là, enfin, je pense que beaucoup de lectrices ou lecteurs qui s'arrêteraient là finiraient en lançant leur tome à travers la pièce de rage. Mais c'est vrai que moi, si j'ai poursuivi, enfin, c'est pas que pour ça, bien sûr, mais si j'ai poursuivi à la lecture, c'est vraiment justement pour essayer enfin, parce que enfin, on veut vraiment savoir quel va être le destin des personnages. Mais c'est une des séries où j'ai rarement senti une ambiance, comment dire, aussi peut-être désespérée par moments, aussi sombre. Là, vraiment, le côté dark fantasy, c'est vraiment, c'est la définition même, je trouve, de ce sous-genre. Et ouais, non, mais après, on peut s'arrêter là, effectivement. Mais en tout cas, Berserk reste ou restera, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on sait pas non plus si oui ou non ses assistants vont finir ou pas. Donc, l'histoire, parce qu'a priori, ils ont la fin, mais est-ce qu'ils vont la dessiner, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, même si ça s'arrêtait là, ça resterait vraiment pour le coup une référence dans son genre. Et encore, j'ai l'impression que c'est un euphémisme de dire ça.
Oui, parce que il a influencé au-delà des mangas. Je sais, on aurait pu se dire, c'était un peu mon explication, pourquoi il n'y a pas d'autres auteurs qui sont lancés sur sa lignée pour le succès. Hein. Tu vois bien comment on peut répéter une formule dans le shonen.
Oui.
Bah, parce que c'est pas facile de faire Berserk, c'est surtout
Bah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui. Il y a peut-être parfois des. Ou alors, il faudrait creuser, mais. Ouais, ça reste un univers. Moi, je l'ai jamais vraiment lu parce que j'aimais pas du tout les dessins. Mais passé un temps, on voyait parfois des comparaisons. Je sais pas si toi tu l'avais lu, c'était comment ça s'appelait. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais Hubblebatt.
Hubblebutt.
Ouais.
Hubblebutt, t'es plus dans une. T'es dans l'exploitation, comme j'aime le dire.
Ouais.
En gros, ils se sont dit, allez, on veut faire de la dark fantasy. Et dans la dark fantasy, il faut du sexe et de la violence. Et vous allez voir, on va en mettre. Ce qui n'est pas du tout le cas de
Ah
Berserk.
oui, bon, dans ce cas-là, effectivement.
Donc, moi, bon, je peux être un peu déviant. Hein, je peux trouver un intérêt à lire ce genre d'histoire. Mais comme tu fais ça sur un tome assez restreint.
Oui.
Mais c'est ce que j'avais lu une fois une interview de l'auteur de Hubblebutt. Il avait changé de magazine de prépublication. Et l'interviewé disait, c'est bizarre, dans les premiers tomes de Hubblebutt, il y avait beaucoup de sexe. Et après, ça s'est atténué. Et puis subitement, au tome X, vous vous remettez à faire ça. Et mangaka a dit, bah, c'est parce que j'ai changé de maison d'édition. Et pour refaire parler de mon manga, et j'ai remis le potard sur 11 et 12. Parce que
Ah oui.
ce qu'on disait, tu veux vendre de la fantaisie. Tu veux vendre la fantaisie occidentale, tu veux faire parler de toi, il n'y a pas 36 000 solutions, on peut dire que c'est un peu l'effet Game of Thrones. Tu sais, quand tu avais
Oui.
des scènes un peu équivoques, que tu n'as pas forcément obligé de mettre à fond, il y a ce côté un peu, souvent dans la fantaisie, elle tombe dans ce travers-là. Et c'est ça peut-être aussi qui est très difficile à vouloir faire quelque chose de supérieur, alors que c'est très facile de glisser et tomber dans la facilité, en fait.
Ouais, non, mais c'est vrai, effectivement, le dosage reste quand même
Assez.
assez difficile à estimer, enfin, selon ce que ton but, hein. Là, d'après ce que tu dis de l'interview, il était très clair sur
Oui,
ses
mais il y
intentions.
a une certaine. C'était quoi? C'était une interview où il avait bien fini son manga et puis il pouvait se libérer, mais.
D'accord. Oui, bah voilà, bah donc du coup on peut le rayer aussi celui-là, donc non.
C'est pas, ce problème, c'est toujours, tu veux retrouver les mêmes sensations d'une œuvre,
C'est
c'est
ça.
quasiment
Ah
impossible.
bah oui.
En plus, quand tu parles d'un chef-d'œuvre, et t'es très spécifique, un manga qui reprend des codes très, très bien assimilés de l'Occident européen, et ça, tu dans ton cahier des charges, tu montes très très haut, hein.
Ouais, non, c'est sûr.
Donc voilà, bon, j'en ai fini, hein. Mais ne vous inquiétez pas, le manga est très diversifié, la fantasy dans le manga ne s'enferme pas dans les époques, hein. Vous avez un univers du steampunk, du médiéval japonais à différentes époques, de la fantasy urbaine à différents niveaux. Il y a quand même une belle diversité, mais j'espère que parmi toutes les œuvres, hein, qui vont ressortir en 2022, on saura piocher, trouver la perle rare. Toujours est-il la difficulté maintenant, hein, contrairement à 20 ans, on courait après les mangas quand on était fan des mangas. Maintenant, c'est essayer de défricher,
Oui, c'est
défricher
vrai.
dans toutes les parutions. C'est elle qui va nous parler à nous-mêmes, hein, indépendamment des qualités intrinsèques.
Tout à fait. Bah écoute, je pense que à ce niveau-là, 2022, à mon avis, s'annonce aussi très chargé. Je sais pas si la crise du papier pénalise aussi les mangas. Enfin, il n'y a pas de raison que ça les pénalise pas,
En
mais.
fait, alors ça, c'est un effet de, tu sais, de. On va parler un peu de choses pas très légales, mais tu sais, les scans, tu sais,
Ah
les
oui,
gens qui consomment.
bien sûr.
Et ça a tellement été dans la culture des gens que le public qui veut être un peu plus respectueux des droits d'auteur, ça marche bien la lecture sur liseuse parce que les mangas sont noir et blanc.
Oui.
Moi, j'achète plus de mangas qu'avant parce que je peux les stocker sur ma liseuse. J'en ai
D'accord.
marre d'avoir des milliers de volumes chez moi.
Oui, c'est sûr qu'il y a ça aussi, ouais,
Et je
effectivement.
tente plus de choses.
Oui, bon, on en revient, comme tu disais, à la prépublication, enfin au format numérique,
Oui, tu
de
vois,
façon
c'est ça.
générale.
Taisez-vous, taisez-vous, parce que là, ça. Chut. Voilà.
À moi, l'aventurière qui doit sauver le monde.